se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
9h09, nous sommes de retour, bon dimanche, c'est RMC, c'est le week-end des experts, on est là avec Jean-Luc Moreau pour votre auto jusqu'à 10h, à laquelle vous retrouverez les paris RMC. Jean-Luc, pour cette dernière partie tout à l'heure, on fera un point sur la volonté de l'État d'accélérer sur le déploiement de la mobilité électrique, c'est important, hein, nouvelles bornes, des aides supplémentaires, etc. On fera le point. On retrouvera aussi tout à l'heure notre question pas si bête, peut-on réparer sa voiture dans la rue ? Notre rendez-vous sur le vif. Et puis, François Alain sera là pour commenter avec nous l'arrivée de la 6e saison de Vintage Mécanique sur RMC Découverte. Voilà le menu. Mais dans l'immédiat, vos questions, vous le savez, en priorité. Et on accueille avec plaisir Mickaël.
Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mickaël.
Comment allez-vous ?
Ben, ça va très bien. Mickaël est notre infirmier libéral du dimanche.
Ah, bonjour, Mickaël.
Bonjour.
Alors d'habitude, vous êtes un petit peu plus tôt, hein, les infirmiers libéraux. Vous arrivez vers les 7h, des choses comme ça. Là, 9h09, c'est tranquille, hein, Mickaël, ce matin.
Non, c'est pas tranquille. Je ne travaille pas aujourd'hui.
Ah, c'est pour ça.
Voilà.
Vous nous appelez d'où ?
Des Ardennes.
Parfait. Et donc pour vous, alors évidemment, important pour vous, pour vous déplacer, d'avoir un bon véhicule, hein, j'imagine.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez envie de changer ?
Alors, j'ai une location sur un Tiguan qui s'arrête le 25 décembre. Et je voudrais passer sur de l'hybride.
D'accord.
Rechargeable.
Oui.
Et je voudrais vraiment avoir les conseils par rapport à l'utilité. J'en ai déjà essayé et j'ai vu les 54 km d'autonomie et tout ça. J'en ai essayé et j'arrive à 35-36 km.
C'est normal. Jusque-là, c'est normal. Oui, bah, parce qu'en fait, les autonomies qui sont données, c'est en cycle d'homologation. Et c'est vrai que dans la réalité, on a des consos qui sont en général un peu supérieurs, sauf si vous étiez uniquement en agglomération où effectivement vous arriveriez sans doute à faire entre 40 et 50 km.
Vous faites combien de kilomètres par jour, Mickaël ?
Entre 100 et 120 km.
Pas plus, quoi qu'il arrive. Maxi, c'est combien ?
Maxi, 120 km par jour.
D'accord. Hey. Bon, vous avez tout intérêt sur un hybride rechargeable.
Et pourquoi pas une électrique, alors ?
Oui. Mais vous voulez, alors, un véhicule de la catégorie du Tiguan, vous vous en servez comme véhicule principal pour votre famille ou uniquement pour travailler ?
Travail et personnel.
Travail et personnel. Donc, il vous faut un véhicule familial. On est d'accord. Donc, vous avez beaucoup de choses à transporter.
Et vous partez en vacances parfois ? Vous faites plus de 120 km à des moments précis de l'année ?
C'est ça. En descendant certains moments sur Paris et puis les vacances l'été.
Oui, donc l'électrique, c'est pas bon.
Bah, ça dépend de quel électrique. Alors, j'ai encore plein d'autres questions. C'est quoi votre budget ? Parce que c'est quand même le nerf de la guerre.
Mais en fait, sur de la location, entre 500 et 600 euros par mois.
D'accord.
Donc, vous êtes plutôt 30
quand même. 500, 600, c'est confortable, ouais.
Bah, ouais, c'est ce que je paye actuellement pour le Tiguan.
Vous avez regardé une Tesla 3 ?
Non.
Attendez, je vais regarder pour vous.
Ouais. Parce que, à mon avis, ça rentre dedans, hein. Donc la Tesla 3, bon, pour vos 150 bornes par jour, vous habitez en maison individuelle ou en...
Oui.
Bon, alors pas de souci pour installer une borne de charge, ça c'est le premier truc. Les 150 km par jour, les doigts dans le nez. En plus, vous pouvez peut-être prendre une version en 4 roues motrices, parce que comme vous êtes dans les Ardennes, l'hiver, bah, y a des moments ça doit glissouiller un petit peu.
Un petit peu, oui.
Voilà, donc ça serait de la sécurité en plus. Et puis une fois que vous aurez goûté à ça, alors là, malheureusement, c'est fini. Vous savez, c'est un virus, il n'y a pas de vaccin.
D'accord.
Une fois qu'on a été mordu par une Tesla, on a du mal à revenir en arrière, en fait.
Parce que c'est vrai qu'à niveau... on recherche aussi, on passe tellement de temps dans la voiture... On cherche quand même du confort, et puis c'est vrai que la conduite haute en ville, c'est quand même agréable.
Ah oui, alors là, vous n'aurez pas la conduite haute avec une Tesla 3. Hein. Vous avez, c'est une berline, on va dire, de taille moyenne. Alors, pour les États-Unis, c'est une petite, mais chez nous, c'est une grosse voiture. Donc, vous aurez un véhicule plus standard que votre Tiguan en matière de garde au sol. Mais,
oui.
Mais par contre, en plaisir de conduite, vous allez voir, c'est zen, c'est... Et c'est une voiture qui est très intéressante parce que un peu moins encombrante quand même qu'un Tiguan, mais avec de la place dedans et surtout deux coffres. C'est ça qui est bien. Donc vous pourrez partir en vacances en famille. Et puis, désormais, on a les superchargeurs Tesla de troisième génération qui permettent de la charge, je crois que c'est jusqu'à 250 kW, ça permet de récupérer 120 km d'autonomie en un quart d'heure. Donc quand vous partez en vacances, alors ça sera un petit peu plus long, hein, je ne vous le cache pas, qu'avec un véhicule thermique normal, si vous devez partir des Ardennes jusque dans le sud de l'Espagne, ça va être plus long, mais le reste de l'année, vous allez faire des économies et surtout, vous aurez vraiment un plaisir de roulage qui est sans commune mesure. Je le répète, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de dire, je lis un peu sur les réseaux, les commentaires, on nous dit oui, arrêtez de nous parler de voiture électrique, machin. Mettez vos fesses, ceux qui n'aiment pas ça, mettez vos fesses une fois dans une voiture électrique, vous verrez qu'on renonce pas du tout au plaisir de conduite. Hein.
Alors Mickaël, une Tesla Model 3 avec un apport de 3000 euros, 10 000 km par an, on est à, sur une durée de 48 mois hein, de LOA, ah ouais, on est à court. 644 par mois.
Voilà. Oui, à 10 000 km par an.
Ouais, c'est pas assez. Pour
attendez,
vous.
Je peux augmenter un petit peu si vous voulez.
Combien vous 30-35 000 à l'année que 10 000.
Alors 40 000, on va mettre, allez, comme ça on est fou.
Ouais.
Qu'est-ce que ça donne 769. Pour 4 ans. 40 000 km par an et avec un apport de 3 000 euros.
Mais sur quoi? Une long range ou sur une. Quelle motorisation?
Vous êtes un peu embêtant.
Dual motor, Jean-Luc, long range
Alors attendez, je sais pas.
Ça va peut-être être un peu chaud alors.
Bah, tout dépend. Oui. Tout dépend parce qu'après, il y a les économies de carburant, Jean-Luc.
Ah, il y a les économies de carburant.
Vous vous rendez compte combien vous allez pouvoir économiser
sur
par mois?
35 000 km par an, vous allez faire des économies de carburant qui sont énormes.
C'est monstrueux. Hein. Vous avez combien de carburant par mois?
Oula, je dois faire le plein tous les 5 jours, donc entre 70 et 75 euros.
Voilà, vous calculez, ce fois 6, ça vous fait 300 ou 6 fois 3, 3 fois 6, 18. Ça fait, à mon avis, 6 fois, vous êtes à au moins 300 euros de carburant par an, par mois.
Oui.
Donc, ouais, que vous n'aurez plus à payer avec ce véhicule.
Oui, mais enfin, vous paierez quand même 3 euros 100 km, à peu près, en électricité. Oui. Tout dépend de l'abonnement que vous avez et de ce que vous allez faire. Justement, après, on a tout intérêt à réviser son abonnement quand on passe une voiture électrique. Alors bon, ça, c'est une possibilité, mais vous la regarderez de votre côté. Sinon, en hybride rechargeable, il y a déjà des choses sympathiques. Vous avez, alors, qui va passer dans votre budget et que moi, je trouve très bien, vous avez l'Opel Grandland. Alors, qui est disponible, ça va de 42 à 52 000 euros en prix neuf. Donc, à mon avis, ça passe dans votre budget mensuel. Bon, vous aurez évidemment 35 km, hein, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais le Grandland, je ne sais pas quel modèle vous avez essayé. Quand vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai essayé des modèles en hybride rechargeable. C'était quoi?
J'ai essayé la classe B. J'ai essayé le Kuga.
Alors, l'Opel par rapport au Kuga, puisque moi, je les ai essayés l'un derrière l'autre. Donc là, j'ai vraiment une vision. Est plus confortable.
L'Opel?
Oui, l'Opel est plus confortable. Et même bien plus confortable en termes de souplesse de suspension. C'est disponible aussi. Alors, ce n'est pas le même tarif, évidemment. Vous avez deux niveaux. Vous avez deux roues motrices en 225 chevaux. Vous avez quatre roues motrices en 300 chevaux. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir un niveau de puissance plus faible en quatre roues motrices. Vous, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément un luxe d'avoir quatre roues motrices dans la région où vous habitez.
Non, c'est sûr.
Voilà. Donc, je pense qu'avec. Alors, je ne connais pas hein, tous les tarifs de LOA de ces modèles-là, mais je pense qu'avec 600 euros par mois, ça passe largement. Et vous aurez tout intérêt à rouler, non pas en électrique sur 35 km, mais à mettre le mode hybride tout de suite. Donc, le mode hybride privilégiera un maximum l'électrique tout en faisant fonctionner le moteur thermique, ce qui vous permettra d'avoir des consommations. Vous allez tourner en mode hybride si vous rechargez la batterie aux alentours de 3,5 litres au 100 km. Alors, je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Avec votre Tiguan, vous consommez combien? Vous êtes quoi? Entre 6 et 7 litres?
7 litres 8.
Ouais, 7 litres 8. Bon, vous voyez, vous allez diviser par deux la consommation de carburant.
D'accord. D'accord.
Avec un agrément supérieur, hein, quand même, hein, faut le préciser. Oui. Hein.
D'accord. Et quand, par exemple, justement, quand il n'y a plus d'électrique, la consommation en thermique, elle est...
Vous avez une voiture hybride, en fait. Hein, quand la batterie est vide, entre guillemets, elle n'est jamais vide, elle ne descendra pas en dessous de 20% ou même 30% de sa capacité. Vous avez un véhicule hybride, comme si vous achetiez une Toyota hybride. Voilà, vous avez un véhicule hybride qui traîne une batterie un peu plus lourde, donc qui est un petit peu moins efficient, mais ça reste un véhicule hybride.
Et donc de toute façon, niveau consommation carburant, il y aura des économies de fait.
Il y aura des économies, principalement si vous vous déplacez. Alors vous êtes en plus, c'est de la petite route que vous faites, de la petite route et éventuellement...
Ah non, c'est que de la ville.
Que de la ville. Ah bah oui, alors là, non, mais vous allez faire des grosses économies de carburant, ça c'est clair.
C'est 95% de ville.
Ah ouais, bon alors là, n'hésitez pas deux secondes, hein. Alors,
d'accord.
Hybride sûr et certain, hybride rechargeable, oui, parce que ça vous permet justement d'avoir des modèles qui vont rentrer. Alors, je vous disais l'Opel Grandland, mais vous avez le Peugeot 3008, qui est le cousin direct. Juste, oui. Le Grandland est un peu plus abordable, mais c'est pratiquement la même voiture. Après, c'est la présentation qui est différente. Bon, l'habitacle du 3008 fait appel à ce qu'on appelle une interface homme-machine un petit peu plus moderne. C'est plus une affaire de goût et il est un peu plus cher. Hein. Il est environ à performance équivalente, environ 2000 euros plus cher le Peugeot.
D'accord. Et vous pensez quoi du XC40?
Alors, il n'existe pas en hybride l'XC40.
Si.
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 Bah alors là, vous me surprenez.
Je l'ai vu hier.
Vous êtes allé le voir hier.
Ouais.
Alors moi j'aime bien l'XC40, je l'ai essayé en diesel, je l'ai pas essayé en hybride, donc je vais pas vous raconter un truc, je vais pas vous parler de cette voiture puisque je ne l'ai pas essayé.
D'accord.
Voilà, alors. Michael.
OK, je vous remercie.
Voilà, vous avez le choix maintenant, hein.
Oui.
Oui, bien sûr. Oui. C'est bien parce qu'il avait une idée avant d'appeler puis maintenant il a 15 idées en ayant raccroché.
Ouais, mais bon, au moins là les idées qu'il a, il en a plusieurs mais ce sont les bonnes sans doute. Il est 9h15 sur RMC, notre question pas si bête.
Si je vous dis, con vous avez l'air, c'est pas français.
RMC, votre auto.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
Et Jean-Luc, notre question de ce dimanche matin, peut-on réparer sa voiture dans la rue?
Alors, bon, déjà, on va prendre le règlement de la police, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, texto, il est interdit de procéder sur la voie publique à des travaux d'entretien, de graissage, de vidange, de réparation de véhicules. Et tout ça, à l'exception des dépannages limités, destinés à permettre au véhicule de poursuivre sa route, bien évidemment.
D'accord.
Si vous êtes en panne et que vous devez changer une roue, par exemple.
Donc, sauf urgence.
Vous avez le droit.
Sauf urgence. C'est pas possible.
Voilà. Sauf urgence, vous avez pas le droit. Mais ça dépend aussi des règlements municipaux.
Ah.
Bon. La règle générale, dont dépendent d'ailleurs les grandes villes, c'est que, on n'a pas le droit de faire de réparation, ou même de vidange. Dans la rue, pourquoi? Simplement, alors d'une part parce que on risque de faire du bruit, donc troubler le voisinage, ça c'est la première chose. Et puis surtout, la pollution. Quand vous faites une vidange, bon, sauf à être vraiment extrêmement précautionneux.
Sauf si vous avez une friteuse à portée de main.
Oui,
voilà. Recycler l'huile de la vidange. Hein.
Complètement, ça fait des très bonnes frites. Je sais
ça
pas
fait
si vous avez déjà
frites.
Goûté.
Ouais. Ah ouais.
Elles sont bien croustillantes.
Alors le seul problème, c'est qu'on en mange qu'une fois puisqu'on meurt après. Mais au moins, on profite.
Voilà. Donc on va dire que globalement, vous n'avez pas le droit de faire l'entretien si vous êtes dans un lieu public. Bon, maintenant vous allez me dire, si je suis dans une copropriété, il y a des parkings, machin, est-ce que j'ai le droit, là aussi, de faire l'entretien de mon véhicule?
Et je dirais non, moi, monsieur Moreau, je dirais non.
Eh bien, vous avez raison, parce que souvent, les règlements de copropriété, là, c'est le règlement de copropriété qui va s'appliquer, et les règlements de copropriété disent: vous n'avez pas le droit, monsieur Sorel, de réparer cette Fuego pourrie qui est toujours en panne. Il faudra donc faire appel à un garagiste professionnel ou éventuellement à un ami qui a un pavillon avec un garage et un pont élévateur. Voilà, si vous connaissez Jean-Luc Moreau.
En revanche, c'est vrai que j'ai un pavillon, j'ai une maison avec un garage privé. Là, je peux faire ce que je veux.
Vous faites ce que vous voulez.
C'est ce que vous faites chez vous, d'ailleurs.
Démonter la voiture, remonter la voiture, changer des pièces sur la voiture, réparer la voiture qui n'était même pas en panne.
Bien sûr.
Voilà.
Vous passez vos week-ends à ça, je crois. Hein.
Oui, mais vous savez, on commence à avoir pas mal de voitures.
Il y a toujours un truc à faire.
Il y a toujours un truc
à
faire.
Je sais bien.
Alors, il y a quand même une solution alternative. Parce que là, vous allez me dire, oui, ok, mais ma voiture, elle est en panne. Comment je fais? J'ai pas les moyens de la porter chez le garagiste. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas qui peuvent pas payer 70 euros de main d'œuvre pour une heure et payer les pièces chez un garagiste. Alors, il y a quand même une solution qui existe, c'est ce qu'on appelle les garages solidaires ou les garages associatifs. Donc là, vous payez, en fait, vous avez des professionnels qui vont vous aider, c'est vous qui effectuez la réparation.
D'accord.
Alors, même si vous n'êtes pas un spécialiste, ils vont vous aider, vous expliquer ce qu'il faut faire, ça vous prendra sans doute plus de temps que si c'était un professionnel qui le fait. Si vraiment vous êtes en grande difficulté, ils vont vous donner un coup de main et ça va vous coûter, on va dire, entre 6 et 10 euros de l'heure. Ah, c'est donc beaucoup, c'est quand même beaucoup moins cher avec tous les outils à disposition. Alors en général, il faut s'abonner. Vous avez un abonnement à l'année.
D'accord.
Mais c'est pas très cher. Hein. C'est entre 10 et 30 euros. Vous payez cet abonnement à l'année.
Et puis après, on bénéficie de ce service.
Vous prenez rendez-vous, vous y allez et puis vous bénéficiez de ce service. C'est une bonne solution.
Pas mal. 9h24 sur RMC. On revient dans un instant, la météo. Et on repartira avec vos questions auto au 32-16. Et puis je vous rappelle que tout à l'heure, on fera un point sur le déploiement de la mobilité électrique en France. Il y a pas mal d'ambition de la part du gouvernement sur ce sujet. On fera le point avec toutes ces initiatives. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
9h30 à suivre dans ce week-end des experts auto. Tout à l'heure, François Lain nous rejoindra, qui est, vous le savez, l'animateur de Vintage Mécanique sur RMC Découverte. C'est la saison 6 qui démarre cette semaine, on va en parler. On découvrira aussi cette campagne de communication étonnante de la part de la prévention routière pour alerter les dangers du téléphone au volant. On en parlera avec Anne Navot. Mais dans l'immédiat, Jean-Luc, on fait le point sur le déploiement de la mobilité électrique en France avec cette volonté d'État d'accélérer sur ce sujet. Et François Roudier est avec nous au 32-16. Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour François.
Porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles.
Exactement, qui voit sans doute d'un bon œil une partie des mesures et d'un mauvais œil le malus sur le poids qui revient à la charge. On en parlera juste après. On va commencer par le positif. François, vous pensez que ça va vraiment doper le marché du véhicule électrique, le fait de donner un bonus de 1000 euros sur les véhicules électriques d'occasion ?
Parce que ça va énormément le doper. Ça va créer un marché de l'occasion. Hein. Comme tout marché automobile, il n'existe que s'il y a des voitures d'occasion. Hein. Une voiture, elle va passer 4 à 5 propriétaires dans sa vie. Donc là, on a un marché qui va devenir réel. Et puis effectivement, ça peut aider d'avoir 1000 euros. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce qui est quand même l'élément essentiel dans tout ce qui a été dit par le ministre, c'est cet engagement sur les 100 000 bornes et puis les aides du système qu'on appelle Advenir qui permettent d'avoir entre 2 000 même voire 9 000 euros sur l'installation de bornes, soit chez soi, soit en entreprise. Ouais. Ça, c'est vraiment le boost pour l'électrique.
Ouais, alors, c'était 1 000 à 2 000 euros auparavant et là, on passe de 2 000 à 9 000 euros, quoi. Enfin, entre 2 000 et 9 000 euros.
Exactement. Et on le sait, c'est le problème. Quel est l'argument qui ne va pas actuellement sur les voitures électriques? C'est de dire où est-ce que je me recharge? Donc là, c'est extrêmement important pour nous, constructeurs, qu'on puisse répondre à ce problème de nos clients.
François, juste si c'est la possibilité technique de vous rapprocher d'une fenêtre, parce que de temps en temps, ça coupe un petit peu. Voilà, mais autrement.
Alors, je vais prendre une fenêtre, voilà.
Voilà, merci beaucoup. Vous savez, la fenêtre, c'est toujours salutaire quand on fait de la radio.
Voilà.
Ouvrez la fenêtre, sortez la jambe par la fenêtre.
C'est ça. Désarmez les toboggans. On est bon.
Bon, il y a également une enveloppe de 100 millions d'euros qui va être débloquée pour les bornes de charge rapide sur les autoroutes. Et ça, c'est vraiment nécessaire parce qu'on est en France, ça devient miséreux. Parce qu'à part les acteurs privés qui ont ouvert aujourd'hui des systèmes de charge rapide et surtout ultra rapide, parce que l'avenir, c'est ça. Hein, pour moi, le stratégique, c'est d'avoir de la charge ultra rapide. Alors, j'en entends qui vont dire oui, mais on n'arrivera pas à fournir en courant. C'est totalement faux puisque, par exemple, Tesla, avec ses superchargeurs de génération 3, ils ont des batteries tampons qui sont installées dans les chargeurs et ça évite justement de trop tirer sur le réseau. Ces batteries tampons se rechargent quand il n'y a pas de véhicule qui est branché et ça permet d'avoir des charges jusqu'à 250 kW. Donc, comme je disais tout à l'heure, de récupérer jusqu'à 120 km d'autonomie en un quart d'heure. Donc, ça permettra d'étendre le rayon d'action des véhicules électriques. Donc là, débloquer 100 millions d'euros pour dire on va faire de la charge rapide sur les autoroutes et sur les nationales, c'était absolument essentiel. Alors, il y a, François, peut-être un truc qui va vous faire un peu grincer, c'est la suppression de la prime à la conversion pour les véhicules critère 2. En gros, demain, les diesels, plus de prime à la conversion.
Oui, alors ça, bon, c'est effectivement un point négatif. Bon, ceci dit, nous, notre vision du futur, elle est quand même sur l'électrifié, que ce soit l'hybride rechargeable ou l'électrique, donc On préfère avoir d'un côté un gros engagement sur ces 100 000 bornes à la fin 2021, l'engagement que vous citez sur les autoroutes, les gens de la distribution, de la grande distribution aussi qui vont installer des bornes. Bon, ça, c'est plus important.
François, le diesel
étant quand même dans un moment où il reste à peu près à 30% du marché.
François, vous y croyez à ces 100 000 bornes fin 2021?
Il faut toujours y croire, c'est le jeu des 100 000 bornes.
Oui, c'est ça, mais ce que j'allais dire.
Il y a assez longtemps, voilà. Non, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que les essais qu'il y avait eu sur autoroute, finalement, ont permis de montrer ce qui ne marchait pas. Donc maintenant, on va mettre des choses qui seront un peu mieux. Et puis, l'engagement des privés, et j'insiste sur ce point de la grande distribution en particulier, c'est extrêmement intéressant. Et puis, des aides pour les gens individuels, c'est vraiment ce qui va permettre de changer la donne. Vous savez, actuellement, on a un seul risque. C'est qu'après des ventes qui sont très bien passées, où les particuliers ont acheté ces véhicules parce qu'ils sont fans et ils sont ravis de ça, ils sont nos meilleurs ambassadeurs, comme vous le dites Jean-Luc, hein, puisqu'ils ne retourneront pas à du thermique. Maintenant, il va falloir convaincre des gens qui ne sont pas vraiment convaincus. Donc il faut vraiment que l'argument de recharge ne soit pas une critique.
Oui, parce que je vais le dire moi, pour pas que vous ayez à le dire vous, mais les constructeurs ont fait leur part du job. Aujourd'hui, les voitures électriques ont bien progressé. Ce sont des vraies voitures. Hein. Elles offrent encore pas toutes les possibilités des voitures thermiques, mais justement parce qu'il y a le point recharge qui coince. Quoi. Donc c'est maintenant, ça doit être le boulot. Alors, vous disiez, les acteurs privés, ils font leur part du travail. Hein. C'est vrai que demain, si on peut aller au supermarché et ressortir avec le plein d'électricité pratiquement gratuit du supermarché grâce à des bornes de charge rapide, ça serait super. Ça va inciter les gens à aller plus chez Lidl que chez Leclerc, quoique les deux ont décidé de mettre des bornes de charge.
La plupart maintenant, ouais, hein, ouais, Ikea, ouais, etc. Ouais, ouais, enfin, Leroy Merlin.
C'est vraiment la dernière incitation, elle est là. Bon, il y a un autre truc.
Bon, après, il faut pas que des bornes dans les centres commerciaux. Il faut des bornes aussi à d'autres endroits.
Non, mais bien sûr, les stations-service, on en avait parlé avec Total, ils vont s'investir et ils feront de la charge également ultra rapide.
Alors, perso, moi parisien, le paradoxe, c'est qu'on est en train d'enlever des bornes autolibes.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais ils sont en train
il y a de moins en moins de places électrifiées à Paris.
Bah oui.
Alors que, Anne Hidalgo avait dit qu'elle voulait pousser les véhicules électriques. Il y a de moins en moins de places.
La politique de Paris, c'est anti-voiture, clairement, qu'elle soit électrique, à charbon.
Non, mais à ce moment-là, qu'elle le dise.
Voilà, on ne veut pas de voiture, Peu importe comment elles sont propulsées. Je crois que le débat aujourd'hui, il est clair. Il n'y a pas de voiture dans Paris, c'est tout. On va transformer Paris, ça va devenir Venise, mais sans eau, en fait.
François-Henri, vous avez un petit peu peur de la stratégie parisienne en termes de véhicules?
Je crois que là, il y a deux idéologies qui s'affrontent. Il y en a une qui explique qu'on va sauver la planète en ne faisant plus rien, en marchant à pied dans les terres du milieu. Et l'autre qui dit que, au contraire, c'est en développant la technologie, en mettant en avant tout ce qu'on a fait comme des voitures électriques, qu'on sauvera la planète. Donc, pour l'instant, la mairie de Paris est un petit peu entre deux eaux.
Oui, ouais, bon, ils ne sont pas un paradoxe près, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. On invitera Anne Hidalgo. Ça serait bien. Bon, François, il y a un serpent de mer. Enfin, c'est même pas un serpent de mer. Il y a un gros lapin qui est ressorti du chapeau cette semaine. C'est le malus sur le poids des véhicules. Il a été un petit peu modifié par rapport à la première proposition. C'est plus au-dessus de 1400 kg. C'est au-dessus de 1800 kg. Et ça touchera pas les voitures électriques et les hybrides rechargeables. Alors moi, il y a quand même un truc, parce que j'ai regardé, il n'y a pas un véhicule français qui est au-dessus de 1800 kg, hormis les hybrides rechargeables. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une mesure de protectionnisme?
Ouais, j'espère que non, sinon on sera attaqué par
par l'Europe.
Donc, effectivement, non, ce qu'on craignait surtout, c'était ce malus au poids à 1 tonne 4, ce qui aurait été un massacre de la production en France. Il y a ce malus-là. Bon, écoutez, c'est pas vraiment quelque chose qui va dans le sens de la liberté de mobilité, mais on peut surtout espérer que ça ne va pas diminuer. Hein, on est toujours un petit peu échaudé avec les problèmes de malus, parce qu'ils sont toujours renforcés. Et là, si on diminuait après d'une tonne 8 à un peu moins, si d'un seul coup on se pose des questions sur les hybrides rechargeables, c'est là où ça poserait vraiment un problème. Puis c'est ce qu'on avait expliqué, nous, qu'il y avait quand même un illogisme total sur certains hybrides rechargeables où vous alliez avoir un bonus parce que vous achetiez un hybride et un malus parce qu'on dépassait
le poids. On achetait une voiture qui était lourde. Bon, or, on sait qu'aujourd'hui, le poids d'un véhicule, c'est aussi de la sécurité, c'est aussi une pollution plus faible parce que les systèmes de dépollution sur les moteurs thermiques, ça pèse lourd et que donc on peut pas effectivement avoir à la fois des voitures plus sûres, moins polluantes et plus légères. Elles seront plus légères à l'avenir, c'est clair, mais l'idée du malus à 1,4 tonne, c'était ridicule. 1,8 tonne, c'est pour moi du protectionnisme. On verra ce que disent les constructeurs allemands.
Merci François.
Merci François.
Merci à vous.
Et bon dimanche, François Roudier.
Merci Benoît, au revoir.
9h39 sur RMC. On va revenir dans un instant avec Jean-Pierre qui aimerait parler de véhicules électriques SUV et puis Vintage Mécanique. François Alain sera là et on évoquera aussi cette campagne de communication étonnante de la prévention routière. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Dernier quart d'heure de votre rendez-vous auto de ce dimanche avec Jean-Luc Moreau, bien sûr, à mes côtés. Et on accueille tout de suite Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute Jean-Pierre.
Je vous appelais parce que j'avais une recherche par rapport à véhicule électrique avec un attache, mais je ne suis pas du tout SUV. Donc ce serait. J'avais regardé l'ID3 qui paraît pas mal. Sauf que l'attelage n'est autorisé que pour un porte-vélo ou porte-bagages, quoi.
Ben, la plupart des véhicules électriques, ouais, quand vous regardez en fait les attelages qui sont disponibles, par exemple sur les Tesla, vous avez une capacité de traction qui est relativement faible. On va dire que c'est pas pour tracter des remorques, c'est effectivement pour pouvoir mettre un porte-vélo derrière. Voilà, c'est.
Oui,
c'est...
mais actuellement j'ai une nourrice hybride, j'ai un attelage. On est limité à 425 kilos. Ce qui est largement acceptable pour une petite remorque bagagère pour aller à la déchetterie, à la pépinière.
Oui, oui, oui. Cela dit, comme je vous disais, la Tesla 3, là, on a droit à 900 kilos. Donc 900 kilos, vous pouvez déjà tracter une remorque. Mais alors, pas SUV. Vous aviez vu quoi? Je sais qu'il y a un attelage qui existe, mais qui n'est pas d'origine Renault pour la Zoé, me semble.
D'accord.
Mais est-ce qu'on peut tracter lourd et est-ce que c'est homologué? À vrai dire, j'en sais rien. C'est une vraie problématique parce que sur les voitures électriques, d'abord, vous pouvez pas installer n'importe quoi parce que le soubassement de la voiture est occupé par la batterie. Donc, vous imaginez un type qui réinstallait un truc et perçait des trous dans la batterie.
C'est pas bon.
Bon, je pense qu'il arrêterait de percer des trous définitivement.
Oui,
voilà. Mais surtout après, même pour les connexions électriques, c'est compliqué. Donc, un attelage d'origine qui doit être installé par le constructeur, ça me paraît indispensable. Et maintenant, qu'est-ce qui existe en série? À mon avis, il n'y a pas grand-chose.
Non, parce que l'ID4, a priori, serait homologué pour atteler et pas l'ID3, alors que c'est basé sur la même plateforme, normalement. C'est un peu ce qui est étonnant.
Peut-être une question de garde au sol, j'en sais rien. Vous savez, le fait de mettre une remorque derrière, si ça abaisse trop, si la batterie est trop près du sol, parce que comme les batteries sont en soubassement, vous allez tracter, ça va abaisser, vous le voyez bien que votre voiture, ça va abaisser l'arrière du véhicule. Ils jugent peut-être que c'est dangereux pour la sécurité de la batterie, ce qui explique pourquoi le SUV pourra tracter et pas la berline.
Merci Jean-Pierre. Allez, on enchaîne avec cette campagne de communication étonnante, Jean-Luc, qui est là pour alerter les dangers du téléphone au volant. Et on en parle avec la déléguée générale de l'association prévention routière, Anne Laveau.
Bonjour Anne.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Bon, on sait qu'un accident corporel sur 10 est lié à l'usage du téléphone au volant. C'est donc bien de remettre une petite couche en disant attention à l'usage du smartphone. Ce qui est original dans votre campagne, c'est que plutôt que de dire aux gens attention, vous êtes des grands méchants, vous essayez de communiquer avec des moyens, j'allais dire modernes, et un peu plus soft que d'habitude.
Oui, effectivement. Alors là, on a parié avec l'agence Mullenlo, qui est une agence qui a travaillé gracieusement pour notre association. Donc, c'est vraiment un engagement de leur part. On a travaillé sur des codes très esthétiques et très simples. Comme vous l'avez pu remarquer sur cette campagne, vous avez juste un portrait qui est agrémenté, vous savez, de ces petits filtres-là qu'on utilise.
Oui, sur les téléphones portables. Oui, effectivement.
Exactement, pour transformer... embellir ou au contraire faire un peu une caricature sur les visages. Et donc là, ces filtres viennent se poser sur les yeux de la personne qui est au volant. Et donc, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. C'est immédiatement compréhensible et on espère que ce message très immédiat va faire son œuvre.
Oui, on a un monsieur, par exemple, qui conduit. On voit, il a des oreilles de lapin devant les yeux. Bon, on se doute qu'effectivement, pour voir la route, ce n'est pas l'idéal.
Exactement. Donc, c'est tout à fait le message avec une seule phrase, restez focus sur la route. Et je crois que c'est vraiment le message qu'il faut faire passer concernant l'utilisation du smartphone dans toutes ses fonctionnalités, parce qu'on parle beaucoup du téléphone. Mais en réalité, aujourd'hui, on utilise nos smartphones pour faire bien autre chose que de téléphoner.
Ne serait-ce que de la navigation. On n'a pas le droit de le tenir en main quand c'est de la navigation. On va le rappeler. Anne, ça, on les verra où, ces pubs?
Alors, pour le moment, on les voit sur les réseaux sociaux. Et puis, vous savez, comme la plupart des associations, eh bien, on fait appel à la générosité également des médias pour qu'ils publient cette campagne. Donc, voilà, le message
en radio,
à l'antenne.
C'est pas facile sur RMC, mais on va essayer de les mettre, les photos.
Non, il n'y a pas de version radio.
Sur
là.
Vos réseaux sociaux, vous avez quand belle audience sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les publier. Ce sera formidable pour nous.
Bon, merci Anne.
Merci Anne. Restez focus sur la route. Et puis, on rappelle, pas de téléphone au volant.
Mais non, bien sûr. Bien sûr. Il est quasi 10h-10 sur RMC. Pour terminer, nous retrouvons avec plaisir un ami de ce rendez-vous auto, c'est François Alain. Bonjour François.
Et bonjour les amis, comment ça va?
Bonjour François. Pas de téléphone au volant dans Vintage Mécanique. Non. D'abord parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, les téléphones portables, on est pénard. Et la nouvelle saison qui démarre jeudi.
Ou alors peut-être les gros téléphones.
Radiocom 2000 ne quittait pas.
Un truc comme ça, mais bon, éventuellement.
Même Radiocom 2000, c'est trop moderne pour l'époque.
Ouais, c'est vrai que c'est quoi? C'est les années 90, Radiocom 2000.
80,
je crois. Ouais, c'est pas si vieux, en fait. On a l'impression que c'est très très vieux, mais en fait, c'était hier, quoi. Donc nous, dans Vintage, évidemment, on parle d'avant-hier, voire avant-avant-hier.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a avant-avant-hier?
Voilà, il faudrait faire une émission vintage téléphonique à ce moment-là.
Ça pourrait être pas mal.
Bah, c'est une idée, tiens. Alors, jeudi 21h sur RMC Découverte, chaîne numéro 24 de la TNT, avec le premier épisode, c'est quoi? On démarre par quoi?
Alors, on démarre par quelque chose d'inédit pour nous. On n'a jamais fait de hot rod. Et donc, on a décidé d'aller un petit peu vers des chemins.
Alors, qu'est-ce que c'est, François, je t'arrête. C'est quoi un hot rod? Parce que ma mère écoute et là, elle vient de lâcher l'affaire.
Alors, un hot rod, en fait, c'était une mode qui était lancée aux États-Unis, notamment après, au moment de la crise économique. C'est les gens qui ont pris des voitures qui étaient déjà, entre guillemets, presque anciennes pour eux et qui en ont fait des voitures pour aller s'amuser, entre guillemets. Donc on prend des voitures souvent des années 30, et c'est vrai que la mode des hot rod aujourd'hui, c'est essentiellement lié aux voitures américaines, aux Ford des années 30. Donc on enlève tout ce qui ne sert à rien, on met un gros moteur, et puis ensuite il y a différents degrés de ce qu'on pourrait qualifier quasiment de customisation pour arriver à un véhicule un petit peu rigolo et décalé. Alors il y a en France une course extraordinaire qui s'appelle la Normandie Beach Race, qui a lieu une fois par an.
Il y a 15 jours, c'est ça?
C'était il y a 15 jours, et c'est là qu'on a fini la séquence finale de cette émission, qui va vraiment être très amusante et décalée par rapport à ce qu'on fait à l'habitude. Et du coup, RMC nous a proposé de faire effectivement une série XXL, donc on a appelé ça la saga Vintage Mécanique XXL, avec des véhicules un petit peu hors normes. Donc on commence par ce hot rod sur une base de voiture française.
Ouais, c'est quoi? C'est une Peugeot?
C'est une Peugeot 201 de 1936.
D'accord. Et là, vous restaurez pas, vous construisez un véhicule, en fait.
Ah bah là,
vous
modifiez une voiture. Voilà, c'est ça. Là, on a désossé la voiture, on l'a reconstruite. Enfin, c'est un travail titanesque. Et le résultat est vraiment très, très inattendu et très, très sympa. Le second épisode, maintenant, je peux le dire, c'est plus un secret. Le second épisode, c'est un camion de pompier. On passe sur un camion de pompier, un Lafly. Donc, Lafly, c'est une marque française. Qui est un peu oublié parce qu'elle n'existe plus depuis fort longtemps. Donc c'est un camion de pompier qui avait été fait pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en 1938, livré en 1939. Donc évidemment, il n'y a pas beaucoup servi.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Voilà. Et donc il y a eu deux exemplaires et nous on a restauré. Alors le second a disparu, il était pour les sapeurs-pompiers de Marseille. Et donc nous on a récupéré le fameux exemplaire numéro 1 qui était pour Paris. Et qui va servir pour un futur musée que les sapeurs-pompiers de Paris s'apprêtent à ouvrir bientôt.
Ah, chouette.
Ils nous ont fait l'honneur de vouloir qu'on restaure ce premier véhicule pour le futur musée de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc là, on va aussi beaucoup rigoler. C'est un chantier assez incroyable. Et le troisième épisode, parce qu'après, donc il y aura la suite, hein, mais ça c'est pas tout de suite. On a fait trois épisodes pour
amorcer la saison, on va dire.
Voilà. Voilà, et les autres épisodes, ce sera au printemps. Et donc, ce fameux troisième et dernier épisode de cette toute première série, c'est un autobus à plateforme Renault des années 30, un TN4.
Ah oui.
Là, c'est pareil, c'est un chantier énorme, c'est pour ça qu'on a appelé ça XXL.
Et vous savez, François, mon papa, il entretenait les TN4 et les TN6.
Je ne savais pas, mon cher Jean-Luc.
À la RATP, voilà.
Ah. Allez, je ne savais pas. Alors vous allez, pas mal, bravo. Et franchement, ça c'est extra parce que c'est des bus qui ont servi pendant 40 ans. Donc tous nos parents, grands-parents et grands-parents ont connu ces autobus-là. Et franchement, c'est une tranche d'histoire de France parce que c'est des bus qui ont traversé toutes les époques, avec évidemment la Seconde Guerre mondiale, avec des moments heureux et des moments malheureux. Mmh. Donc c'est aussi des véhicules qui sont importants parce qu'ils ont une trace dans la mémoire collective. Et puis c'est du transport urbain, c'est du transport pour tout le monde. Donc il y a eu des tas de films, des feuilletons, il y a eu des tas de trucs où on voit ce genre d'autobus. Mmh. Il y a même eu un feuilleton à la télé dans les années 60 qui était entièrement axé autour d'un autobus à plateforme justement.
Ah oui, donc c'était autobus assez, voilà. Impérial, je m'en souviens.
Il y a eu l'autobus impérial, il y a eu l'inconnu de la ligne U, je crois, ou un truc comme ça, qui était dans les années 60. Moi, pas né, mais toi, j'en ai plus connais.
Ah bah oui.
Allez, allons-y, c'est gratuit.
C'est gratuit,
voilà, c'est offert c'est aujourd'hui, voilà.
Bon, ben parfait. Non, donc, ces trois épisodes arrivent là bientôt. Hein,
ça donc, commence voilà, jeudi. Le 22, le 29 et puis le 5 novembre.
C'est parfait.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, on s'en est aperçu, on n'avait même pas fait attention, c'est trois véhicules français pour cette première saga.
Oui.
Et c'est trois véhicules des années 30. Mais qui sont évidemment des véhicules totalement différents. Un pour le transport urbain, l'autre pour les secours et le troisième, un véhicule particulier. Mais voilà, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire ces épisodes, comme d'habitude. Et là, on est sorti dans des choses un peu décalées que moi j'adore, à titre personnel, moi j'adore ça.
Parfait, merci beaucoup.
Voilà.
Merci
donc,
François.
À très vite les amis et merci en tout cas pour votre accueil.
Merci François.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Bye bye.
À très bientôt François Lin. Donc Vintage Mécanique, c'est ce jeudi, ça commence ce jeudi à 21h sur AMC Découverte. Jean-Luc Moreau, c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir.
Bah oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais. On se voit la semaine prochaine encore.
On se voit la semaine prochaine. Votre auto, vous le savez, tous les dimanches, 7h-10h sur AMC. Évidemment, je vous souhaite un bon dimanche. Et dans un instant, on enchaîne avec les paris RMC. Jean-Christophe Drouet là. Salut Jean-Christophe.
Salut François.
Bonjour,
salut Jean-Christophe.
T'as vu, même pas de jeu de mots pourri, rien du tout. Nickel le passage.
Ouais. Hein? Rien. Je suis un peu déçu d'ailleurs. Quand même.
Ah bon? Bah alors non.
Bah si Jean-Luc, je suis déçu.
On se fait pourrir quand il y a un jeu de mots pourri. On fait pourrir quand il n'y a rien.
Alors dans quelques instants, les paris RMC. J'attends la vanne avant évidemment la fin de ce passage antenne, Jean-Luc. Les paris RMC autour de la 7e journée de Ligue 1. Et notamment le derby du Nord entre Lille et Lens, mais également Monaco ou encore Lyon, Saint-Etienne, Nice sur le pont. Bref, on va beaucoup parier sur la Ligue 1 aujourd'hui.
Les paris RMC dans un instant avec Jean-Christophe et toute sa team. Bon dimanche avec RMC. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Portez-vous bien, à très vite.
Les paris RMC, 10h-11h.